Vous écoutez RTL.
3210, prenez la parole sur RTL. Les électeurs ont la parole.
Invité des électeurs ont la parole, Camille Bedin, conseillère départementale des Hauts-de-Seine pour les Républicains et porte-parole de Jean-François Copé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour présenter, débattre aujourd'hui d'une des propositions de votre candidat. Une idée qui revient régulièrement d'ailleurs à droite. Il n'est pas le seul à faire cette proposition. Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, ils sont également favorables. C'est la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique. Avant de rentrer sur le fond, est-ce que c'est pas typiquement le genre de proposition qui fonctionne très bien pour une primaire, où on flatte un peu son électorat, mais qui ensuite se révèle impossible à mettre en œuvre ?
En tout cas, c'est clairement le problème des dernières années et des derniers mandats où effectivement on a fait beaucoup de promesses qu'on n'a pas forcément tenues derrière. Et elle en faisait partie, celle-là. Elle faisait partie, la réforme de la fonction publique en a toujours fait partie. Là, ce qu'on propose pour le faire, pour garantir aux électeurs que nous le ferons, c'est que cette réforme de la suppression de l'emploi à vie, on l'inscrira dans une ordonnance qui sera rédigée noir sur blanc. C'est un texte qui reçoit une habilitation du Parlement et qui permet au gouvernement de le faire entrer en application, cette mesure-là, de la faire entrer en application dès septembre 2017.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat parlementaire, rien du tout.
C'est pas tout à fait ça. Il y a un débat d'abord avant l'élection de mai qui se fait sur la base du texte. Donc les Français votent pour le texte. Donc si le candidat est élu, c'est pour ce texte-là qu'il aura été élu. Donc il le fera. Ensuite, le Parlement est bien sûr vu avant. C'est-à-dire que c'est lui qui habilite le gouvernement pour prendre ces textes-là et il fixe les domaines. Donc il y a un débat au Parlement. Et ensuite, c'est lui qui ratifie le texte après. Donc il y a évidemment avant et après un rôle du Parlement.
Mais pourquoi une telle urgence ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui chez
Parce
les fonctionnaires ? Il faut les
non,
remobiliser ?
Non, ce n'est pas ce qui ne va pas chez les fonctionnaires. C'est ce qui ne va pas dans le service public, ce qui ne va pas dans l'État aujourd'hui en France. Et il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un coût énorme. On a des dépenses publiques qui sont parmi les plus élevées des pays de l'OCDE. Deuxièmement, on a une efficacité du service public. Je ne parle pas des fonctionnaires, je parle de notre service public qui est lourd, qui est coûteux, qui est dense, qui n'est pas là. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ces résultats dans l'éducation ? Est-ce qu'on peut se satisfaire de la manière dont fonctionnent les hôpitaux aujourd'hui avec l'argent qu'on y dépense ? Non. Les Français ne sont pas satisfaits de ça. Donc il faut qu'on redonne des moyens là où il y en a besoin, par exemple la police, la gendarmerie, l'armée, et là il faut qu'on trouve des marges de manœuvre et il faut qu'on fasse des économies ailleurs et qu'on rende de la souplesse à l'État pour qu'on puisse embaucher des gens là où on en a besoin et ne plus en avoir là où on n'en a plus besoin.
Ça veut dire que ça ne concerne pas les fonctionnaires des domaines régaliens, armée, police,
si
justice.
Jean-François Copé est le seul parmi les candidats justement à aller jusqu'au régalien.
C'est-à-dire qu'aux policiers, on va dire, ça sera
vous avez pas des objectifs, c'est vous déjà, les avez pas tenus.
Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est déjà le cas dans l'armée, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de plus régalien que l'armée ? Aujourd'hui, il y a des contractuels qui sont militaires. L'idée, c'est pas de flexibiliser la police. L'idée, c'est de pouvoir dire n'importe quel Français aujourd'hui doit pouvoir servir l'intérêt général, y compris dans la police. Il n'y a pas besoin d'être titulaire et donc d'avoir l'emploi à vie pour servir correctement la sécurité de son pays. Ça veut dire par contre des garanties. Ça veut dire qu'en face, on paye mieux, on a plus de moyens, nos commissariats sont mieux entretenus. Voilà, les marges de manœuvre qu'on dégage, on les réinvestit dans le fonctionnement.
Restez avec nous, vous allez pouvoir dialoguer avec Philippe qui est à Metz. Bonjour Philippe.
Bonjour Christelle et Vincent.
Bonjour.
Soyez
Philippe.
Le bienvenu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous êtes fonctionnaire, Philippe ?
Tout à fait, fonctionnaire. Au 1er janvier, j'aurai 30 ans d'ancienneté. En principe, quand on rentre dans la fonction publique, on y fait une carrière si on est assidu, si on fait son travail correctement.
Vous êtes dans la fonction publique hospitalière.
Hospitalière, hein. Voilà. Alors là, j'entends les réformes, pourquoi pas ? Moi, je veux bien. De toute façon, il y a du ménage à faire dans la fonction publique. Il y a des postes où c'est surdimensionné. Vous avez des chefs de bureau, sous-chefs de bureau, vous avez directeur adjoint, vous avez directeur régional. On cumule des postes. Et quand on regarde sur le terrain, la compression de personnel qu'il peut y avoir, c'est impossible de continuer comme ça. Donc là, encore une fois de plus, on sent les primaires arriver. Nos députés ont de très bonnes idées, mais c'est impossible de mettre ça en place. C'est impossible. Parce que ça va gronder dans les rangs. Vous allez avoir des revendications des syndicats et du personnel. Quand on voit dans la fonction publique hospitalière le manque de personnel soignant, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est à la une du journaux.
Bien sûr, on est bien d'accord. À vous entendre, il y a beaucoup de directeurs et pas suffisamment de soignants, si je comprends bien.
Bien sûr. Alors, en ce moment, on est en train de regrouper les hôpitaux, on supprime des lits dans des endroits, on en ouvre à d'autres, avec des parcours de 30, 40, 50 kilomètres. Le patient n'est plus au cœur de la santé. On nous parle d'économie sans cesse. Alors, moi, je veux bien des réformes dans la fonction publique, mais je pense que M. Copé a une bonne idée, je ne suis pas contre, mais il faut être très prudent.
On va revenir sur ce que vous soulevez, Philippe.
Camille Bedin, juste une question par rapport à ce que dit Philippe, ça concernerait uniquement les nouveaux embauchés.
Bien sûr.
Voilà. Ça ne concerne pas les 5,5 millions de fonctionnaires de notre pays.
Vous avez raison de le préciser, les nouveaux entrants et ceux qui, parmi nos fonctionnaires actuels, souhaiteraient passer en contrat, en CDI, plutôt que d'être titulaire.
Donc ça veut dire une réorganisation extrêmement progressive.
Progressive et profonde. Ça veut dire effectivement, à long terme, une réforme comme ça, elle entrerait en application en septembre. Elle ne peut évidemment pas être mise en œuvre pour les 5,5 millions de fonctionnaires qui ne se sont pas engagés pour ça. Ce ne serait pas honnête vis-à-vis d'eux.
Autre conséquence peut-être de cette réforme, c'est le salaire. À partir du moment où, vous créez d'une certaine manière une insécurité pour ces fonctionnaires. Est-il logique ou non que leur salaire soit augmenté?
Mais bien sûr, et moi je le souhaite pour un grand nombre d'entre eux aujourd'hui, à partir du moment où on demande aussi de passer aux 39 heures, c'est aussi l'une de nos propositions, on passe aux 3 jours de carence comme dans le privé, voilà, mais en contrepartie, évidemment, augmentation du salaire sur des grilles tarifaires qui seraient cette fois basées sur les performances et sur le mérite. Ce ne sont pas des gros mots aujourd'hui. Pour les millions de salariés qui travaillent dans le privé, c'est une réalité. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour les nouveaux entrants dans la fonction publique. J'ajoute juste un chiffre qui est très peu connu. Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, les recrutements dans la fonction publique sont faits au 4/5 sur des contrats. C'est-à-dire qu'on n'emploie plus, on ne titularise plus réellement dans la fonction publique actuelle. Donc ce que nous proposons, c'est en réalité d'acter ça, d'arrêter l'hypocrisie, parce qu'aujourd'hui on ne le dit pas mais on le fait, et de mettre un système clair qui permet de payer mieux, d'embaucher plus là où il y en a vraiment besoin, c'est-à-dire pour le régalien et l'hôpital, je le redis, et la santé, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, et pour se délester de certaines lourdeurs dans d'autres administrations.
Vous restez avec nous, Camille Bedin. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Jean-François Copé pour cette campagne des primaires, élu républicain dans les Hauts-de-Seine. On parle de cette proposition d'en finir avec l'emploi à vie des fonctionnaires. On avait Philippe, je crois qu'on va avoir Antoine et Françoise.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Et oui, tout le monde a la parole au 32-10. Et ceux qui ont la parole, qui la prennent la parole, vont recevoir un petit cadeau, Virginie.
Et oui, Vincent, à l'occasion de la foire au vin, RTL et les éditions Hachette Pratique offrent à tous les auditeurs donc qui interviennent sur notre antenne le guide Hachette des vins aux éditions Hachette Pratique. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Oui, enfin, on le boit pas, hein, le guide. On ne fait que le lire.
On le déguste. Allez, des yeux, en fait.
Les électeurs ont toujours la parole sur RTL. On revient sur cette proposition de Jean-François Copé, la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique. Nous sommes toujours en studio avec Camille Bedin, qui est porte-parole de Jean-François Copé pour cette campagne. Et Antoine nous appelle de Sissy dans l'Aisne. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour à tous, bonjour RTL.
Bonjour Antoine.
Soyez le bienvenu. Vous avez été fonctionnaire, maintenant vous êtes chef d'entreprise.
Oui, tout à fait. J'ai décidé de quitter la fonction publique à l'âge de 50 ans pour créer une entreprise, donc pour créer des richesses et de l'emploi, puisque les entreprises servent à ça.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, de créer une entreprise ou de quitter la fonction publique?
Alors, moi, le drame dans mon histoire, parce que j'ose employer ce mot, c'est que ça s'est très très mal passé dès que j'ai voulu quitter la fonction publique pour créer une entreprise et encore une fois pour créer de l'emploi et des richesses. Puisque ma démission a été refusée. Bon, il faut quand même savoir que le statut de fonctionnaire, c'est une loi au sens strict, et que donc, dans la mesure où on est dans la fonction publique, en fait, on est sous le régime de cette loi, et que l'administration a ses règles, et donc l'administration est toute puissante, elle peut refuser à un fonctionnaire de quitter la fonction publique.
C'est-à-dire que vous ne pouviez pas quitter la fonction
publique ? Vous ne pouviez pas démissionner ?
Je n'ai j'ai reçu une réponse négative à ma démission de la fonction publique pour la quitter et créer une entreprise.
Ouais, ça paraît incroyable. Bon, ça a pu se régler quand même, j'imagine.
À mon sens, non. C'est pour ça que bon, je réagis et j'interviens sur l'antenne, parce que c'est quand même un débat que les Français et nos hommes et femmes politiques doivent avoir. Ça, c'est pas réglé dans la mesure où moi, j'ai, suite à ça, essayé les recours hiérarchiques habituels, parce que évidemment, j'étais mécontent de ce refus. Et suite à ça, les recours hiérarchiques n'ayant rien donné, j'ai eu 4 ans de procédure judiciaire et je suis allé jusqu'en cassation, c'est-à-dire jusqu'au Conseil d'État, et ça
incroyable.
N'a rien changé.
C'est incroyable. Juste pour savoir, est-ce que vous avez une explication? Quelle a été la raison pour pourquoi la fonction publique tenait tant à vous garder dans ses rangs, Antoine?
Alors, moi, honnêtement, je crois maintenant que je connais bien la fonction publique. J'ai passé 25 ans. Je connais bien les entreprises privées. J'y suis depuis 7 ans maintenant. Il y a beaucoup de soucis et beaucoup de malaise dans la fonction publique qui s'explique facilement. La fonction publique doit changer parce que le monde change, parce que les nécessités changent. Et donc, certains changements se font dans la douleur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quelque part, obliger, en quelque sorte, évidemment, certains souhaitent rester à vie dans la fonction publique, mais d'autres, ils sont malheureux.
On a bien compris que c'était votre cas.
Donc, vous êtes plutôt favorable à cette idée, Antoine. Restez avec nous. Vous allez pouvoir débattre peut-être avec Sandrine, qui est à Avignon. Bonjour, Sandrine.
Oui, bonjour.
Bonjour Sandrine, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Jean-François Copé?
Alors, je suis moi-même fonctionnaire dans la fonction publique territoriale. Ce que je pense, c'est qu'il y a déjà des CDI dans la fonction publique. Donc, à mon sens, effectivement, c'est pas la majorité, mais c'est plutôt, disons, qu'on cherche à faire un peu du buzz électoral par rapport à ce...
Donc vous voulez dire qu'au fond, ça ne changerait rien. Camille Bedin,
buzz électoral, dit Sandrine.
Juste un chiffre, sur les 5,5 millions de fonctionnaires en France, il y en a 4,5 millions qui sont titulaires, employés à vie. En Allemagne, pour 20 millions de personnes de plus dans le pays, il y a seulement 1,8 million de titulaires. Donc, à quoi ça sert? Ma question, c'est ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les mêmes fonctionnaires, et nous souhaitons qu'il y en ait moins, qui soient contractuels, donc salariés, tout simplement? Ça leur rendrait, comme l'a très bien dit Antoine, leur mobilité, leur capacité d'entrer, de sortir. À nous aussi, qui ne sommes pas dans la fonction publique, je parle pour mon cas, pourquoi je n'irais pas y passer quelques années au service de l'intérêt général et puis en repartir? Ça donnerait de la mobilité, de la flexibilité,
et
de la souplesse.
Et vous pensez que ça serait attirant pour un certain nombre
je
de
jeunes diplômés? Je pense que ce serait plus attirant.
Jeunes diplômés.
Dans la mesure où, je pense à l'enseignement, par exemple, qui est un milieu que je connais bien. Vous avez beaucoup d'enseignants qui, après 10 ans, 15 ans, ont envie de faire autre chose, et c'est normal. Or, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Même au sein de la fonction publique, c'est difficile. Donc, il faut absolument ouvrir ça. Je pense que ce serait plus attrayant, notamment du point de vue salarial et du point de vue de la carrière. On pourrait avoir des gestions de carrière beaucoup plus individualisées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui donne des situations ubuesques comme celle d'Antoine.
Alors, pour conclure cette séquence, merci beaucoup, Sandrine. Je vous présente Françoise. Parce que Françoise... Bonjour Françoise, elle veut aller plus loin que M. Copé.
Oui, tout à fait. Moi, je suis retraitée de la fonction publique. Je suis rentrée à 18 ans, je l'ai quittée à 63 ans. Et si on veut être objectif et honnête, qui n'a pas entendu dire « Oui, il y en a assez, il y en a marre, elle serait dans le privé, il y a longtemps qu'elle aurait été balancée
». Oui. Voilà. Et ça, vous l'avez constaté au cours de votre carrière, finalement.
Tout au long. Alors, vous savez, quand vous avez une personne qui est attachée d'administration, qui arrive le matin à moitié ivre, qu'on est obligé de la payer comme attachée d'administration et d'employer quelqu'un d'autre en plus pour faire le travail. C'est normal?
Ah ben non, voilà, ça, voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, pas grand monde qui l'a trouvé ça normal.
Alors, on dit, moi je suis à Nancy, le CHU est en déficit, le CHU de Meurthe-et-Moselle est en déficit. On se pose la question à savoir s'il ne sera pas mis sous tutelle. Mais dans ces établissements, vous avez combien de gens qui sont dans des postes, qui ont des postes clés et qui sont dans des placards très malheureux. C'est peut-être dur ce que je vais dire. Il y a des gens qui se sont suicidés. On parle de suicide, de choses comme ça, de gens qui étaient au placard. Vous avez des gens qui sont au placard, mais qui le cherchent, qui le veulent, qui font des tas de services et qui sont balancés d'un service, remis dans un autre.
Oui, mais si on remet... Non, mais ça, ce serait une réorganisation plus globale, Françoise. Mais juste si on change... Vous pensez que juste la fin de l'emploi à vie, ça va changer tout ça?
Ah oui. Ah oui.
Parce qu'on sera dans une autre vision des choses.
Pour moi, fonctionnaire, ça devrait être, admettons, dans un hôpital, le personnel médical.
Oui, ouais, c'est ça.
Tout ce qui est, puisque maintenant, ils le font déjà pour les cantines, pour la restauration, bien souvent, c'est des entreprises annexes. Pour la blanchisserie, c'est une entreprise annexe. Et pourquoi ne pas le faire pour les administratifs?
Eh ben voilà, c'est dit, Françoise. On va quand même laisser répondre...
On vous laisse le dernier mot, Camille Bedin.
Camille Bedin.
Je partage cette vision, évidemment. En fait, il s'agit juste de régler un problème de justice, évidemment, entre le public et le privé, mais pas seulement au sein même de la fonction publique. Il y a des grandes situations d'injustice, par exemple avec les cas qu'évoquait à l'instant Françoise. Donc, c'est une mesure de justice. Juste un fait qui n'est pas connu non plus, c'est que les concours aujourd'hui, la titularisation, avantage plutôt les catégories sociales favorisées que défavorisées, parce que les concours sont toujours comme ça, quand il y a une plus grande sélection. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est plus de justice, je pense, pour tout le monde. Et à la fin, c'est, j'espère, je crois, un meilleur service public, un meilleur service de l'intérêt général.
Merci Camille Bedin, porte-parole de Jean-François Copé pour la campagne des primaires. Merci aussi à Sandrine, Françoise, Antoine et Philippe qui ont fait le 32-10.